Le service Orange Monnaie, réception de transfert d'argent depuis la France, vous propose appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue si vous nous rejoignez pour la seconde partie d'appel sur l'actualité. Quel scénario pour le Soudan après la destitution par l'armée jeudi dernier du président Omar el-Béchir? Ironie de la situation, lui-même était arrivé au pouvoir en 1989 en renversant le premier ministre démocratiquement élu, Sadek al-Mahdi, chef du parti al-Oumma. Un coup d'état militaire soutenu à l'époque par les islamistes et qui a conduit à 30 années de régime autoritaire, marqué par la guerre avec le Sud, 2 millions de morts, avant la sécession en 2011, et par la guerre au Darfour, où les milices djendjaouides envoyées par Khartoum ont semé la terreur, ce qui vaudra à Omar el-Béchir 2 mandats d'arrêt lancés par la CPI, la Cour pénale internationale, qui veut le juger pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Alors après l'arrestation jeudi du président el-Béchir, c'est son ancien vice-président, Awad Ibn Auf, tout aussi détesté, qui a pris la tête d'un conseil militaire de transition, avant d'être éjecté à son tour 24 heures plus tard et remplacé par un général quasiment inconnu, Abdel Fattah al-Burhan. Révolution de palais, ravalement du régime ou phase de transition avant que les militaires, comme ils le promettent, rendent le pouvoir aux civils. Hier, l'armée a proposé aux leaders de la contestation de choisir une figure indépendante qui serait nommée Premier ministre pour ensuite former un gouvernement civil. Mais les manifestants restent mobilisés à Khartoum. Ils réclament que soient jugés les responsables de crimes sous l'ancien régime et ils veulent un transfert immédiat du pouvoir aux civils. L'armée peut-elle céder? Le printemps soudanais amènera-t-il la démocratie? Votre avis nous intéresse, appelez-nous au 33 9 693 693 70. On part tout de suite pour Dakar, retrouver Abdoulaye, bonjour.
Oui, bonjour Chantal.
Alors Abdoulaye, que pensez-vous de cette semaine historique que viennent de vivre les Soudanais?
Alors moi, dans un premier temps, j'étais inquiet par rapport aux premières propositions. Par exemple, le général parlait de période de transition de 2 ans. Et ça, c'était ça m'a rappelé un peu le scénario avec Robert Gay en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que il fallait que le peuple soudanais reste mobilisé, reste dans la rue et se battre pour que une transition civile soit organisée. Pas avec les militaires, parce qu'avec les militaires, on a l'histoire nous a appris que à chaque fois, quand tu restes au pouvoir pendant 2 ans, ils vont prendre le coup du pouvoir, après ils vont troquer leur tenue militaire aux tenues civiles, et que ça va être la continuité, la dictature qui ne dira pas son nom, quoi.
Alors pour vous, ce qui se passe aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt une révolution de palais? Un général remplace un autre général?
Tout ça, c'est inquiétant pour moi. Moi, ce que je pense, c'est que le peuple soudanais doit rester mobilisé jusqu'à ce que tout soit réglé de façon pacifique avec les civils, mais pas avec les militaires. Quel que soit Alpha, si ça se continue avec les militaires, il y aura toujours des problèmes.
Et le fait que Salah Gosh, par exemple, l'ancien chef du très redouté Nice, le service de renseignement soudanais, soit remplacé par un général, Aboubakar Mustafa, est-ce que ça peut traduire la volonté de l'armée de prendre les rênes justement du service de renseignement?
On peut le dire comme ça, mais je suis sceptique parce que ça veut dire que les militaires peuvent sortir par la porte et rentrer par la fenêtre ensuite. C'est ça le problème avec les militaires. On ne peut pas les faire confiance.
Abdoulaye, moi, oui. Allez-y, Abdoulaye.
Oui, pour moi, les militaires peuvent sortir par la porte et rentrer par la fenêtre ensuite. Donc, il faut que le peuple soudanais reste vigilant et être très attentif à la situation et reste surtout mobilisé.
Est-ce que vous pensez que l'Union africaine pourrait aider à mettre en place un régime de transition ou pas?
Pour moi, l'Union africaine, il faut qu'elle soit écartée complètement. Parce que l'histoire nous a appris que l'Union africaine, tout ce qui se passe en Afrique, pendant l'histoire avec la Libye et tout ça, l'Union africaine a été incapable de régler quoi que ce soit, ni de mettre en garde l'Occident pendant la guerre en Libye. Aujourd'hui, la sous-région est déstabilisée par la destabilisation de la Libye. Donc, et tout ça, c'est la faute quelque part de l'Union africaine. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit. Je crois que l'Union africaine doit se mettre à l'écart des affaires soudanaises.
Merci beaucoup Abdoulaye de nous avoir appelé. Bonne journée à Dakar. On retourne au standard où Blaise nous appelle de Kinshasa. Bonjour Blaise.
Bonjour Chantal et bonjour aux auditeurs de la Radio du Monde.
Alors vous avez envie de féliciter la population soudanaise?
Je félicite la population soudanaise parce que c'est que cette population assez nous a étonnés. Moi, je me suis dit, ils vont contester à un moment donné, ils vont se fatiguer et puis Béchir restera au pouvoir. Et le plus étonnant, c'est ces renversements. C'est une population que nous devons féliciter, moi, je pense.
Et à votre avis, elle doit maintenir la pression sur l'armée actuellement, malgré les gestes faits ces derniers jours par le Conseil militaire de transition?
La bataille n'est pas encore finie, donc les Soudanais doivent continuer les combats. Vous savez, si on ne met pas la pression à ces militaires-là, moi je me dis peut-être que 3 ou 4 ans après, ces Soudanais vont regretter leur contestation. Parce que c'est un résultat positif, mais il faut que le résultat soit beaucoup plus positif avec les civils, pas avec le militaire. Vous savez, moi je suis Congolais, je suis en RDC. Joseph Kabila, lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il était militaire. Qu'est-ce qu'il nous a pas promis? Il nous a dit qu'il organise les élections et puis il s'en va. 18 ans après, pour que Joseph puisse partir, il a fallu que la population congolaise puisse dire non. Et c'est qui risque d'arriver aux Soudanais. Donc le militaire, ils ont bien fait de prendre le pouvoir, certes oui, mais c'est aux civils de continuer maintenant cette lutte, pas aux militaires. Il ne faut pas le faire confiance à 100%. Attention.
Il faut, comme le réclame à votre avis, comme le réclame la contestation populaire, il faut mettre tout de suite en place un gouvernement de transition qui soit civil et même pas une alliance entre civils et militaires.
Évidemment, il faudra que les civils reviennent au pouvoir. Parce que imaginez-vous que ces militaires, parce qu'ils ont dit 2 ans de transition, après ces 2 ans, vous savez, on dit souvent que le pouvoir corrompt. Et quand un militaire est corrompu par le pouvoir, c'est dangereux. Moi, je pense qu'il faudra mettre la pression pour qu'il y ait de civils à la tête du Soudan. S'il faudrait que les élections soient organisées, que ces élections soient organisées par les civils. Parce qu'une fois que ces militaires goûteront au pouvoir, je vous rassure, madame, que nous allons encore compter des années avec le militaire à la tête du Soudan.
Je vous pose la même question que je posais à Abdoulaye tout à l'heure. Est-ce que l'Union africaine, selon vous, a un rôle à jouer dans cette période de transition qui s'ouvre au Soudan?
Je n'ai jamais fait confiance à l'Union africaine, madame. Vous savez, c'est un club d'amis. L'Union africaine n'a jamais résolu le problème des Africains. C'est comme l'a dit le précédent intervenant. Nous avons vu ce qui s'est passé en Libye. Nous voyons ce qui s'est passé au Mali. Qu'est-ce que l'Union africaine fait? Elle ne fait absolument rien. Il ne faut pas faire confiance à cette Union. Moi, je pense que les Soudanais sont capables de se mettre sur pied, de continuer la contestation, d'amener leurs autorités à prendre de bonnes décisions pour que les choses puissent changer. Mais faire confiance à l'Union africaine, je vous dis, c'est une gravissime erreur.
Est-ce que cette révolte populaire qui a éclaté en décembre parce que le prix du pain avait triplé peut sonner comme un avertissement pour d'autres dirigeants plus soucieux de leurs intérêts personnels, on va dire, que de l'intérêt de leurs concitoyens?
Mais évidemment, nous l'avons vu avec le printemps arabe. Ça a commencé en Tunisie. L'Égypte a embrassé cette démarche. Mais moi, je pense que c'est possible. Parce que lorsque vous voyez que quelqu'un comme Omar El-Béchir, sous le mandat de la CPI, qui continue à bomber les torses, finalement, qui est tombé à cause de la contestation de la population, moi je me dis pourquoi pas, les autres aussi peuvent tomber à condition que leur population aussi soit déterminante comme ça a été au Soudan. Moi je pense qu'ailleurs aussi ça peut changer avec la détermination bien sûr de la population, c'est possible.
Merci Blaise pour votre appel, bonne journée à Kinshasa. Direction N'Djamena à présent, Moussa bonjour.
Oui bonjour Chantal, bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Est-ce que vous avez suivi cette révolte populaire menée pendant presque 4 mois par la population soudanaise et comment vous avez réagi en fin de semaine quand les événements se sont précipités à Khartoum?
Mais bien sûr, j'ai suivi 4 mois durant les manifestations de la population, la forte mobilisation de la population soudanaise et par la suite, ça a débouché sur la chute d'El-Béchir. Donc je pense qu'il y a une avancée très notable à ce niveau-là, bien qu'aujourd'hui, les militaires semblent être contestés par les manifestants, mais il y a des concessions qui ont été faites à ce niveau. Le premier, Awad El-Aouf, a démissionné, et le sulfureux responsable de la sécurité, ça, la gauche également l'a suivi. Maintenant, je pense qu'il faut faire confiance à Abdel Fattah al-Burhan ainsi que d'autres militaires. Dans la mesure où, madame, la question aujourd'hui ne se limite pas seulement à l'organisation d'une transition pacifique avec un civil à la tête. Le Soudan est frontalier avec la Libye et vous êtes consciente du cancer libyen et c'est à partir du Soudan que la CELECA est partie destituée et bosisée. Donc il y a des questions de sécurité qui sont liées au niveau des frontières du Soudan avec les pays voisins et une commission mixte avec le Tchad contre le banditisme transfrontalier et la criminalité. Je pense que pour toutes ces questions-là, nous aurions besoin de l'expérience des militaires, pas ceux qui ont la main sale dans la crise du Darfour, qui ont saisi dans la crise du Darfour, mais d'autres militaires qui ne se sont pas saignés, salis à ce niveau-là.
Donc ça veut dire qu'il faudrait un gouvernement de transition co-dirigé par les militaires et des civils ?
Mais il faut un organe de transition et un gouvernement de transition. Parce qu'il y a distinguo entre un organe de transition et un gouvernement de transition. Aujourd'hui, Abdel Fattah demande à toutes les forces vives, à l'association des professionnels, aux manifestants, à l'opposition politique, de lui choisir une personnalité civile neutre pour mener la transition, comme Premier ministre. Mais maintenant, pour régler l'ensemble des problèmes liés à l'avenir du Soudan, à l'ensemble des questions dont le développement du Soudan en dépend, il faudrait bien organiser un forum, comme nous l'avions fait au début des années 90, du genre conférence nationale dite souveraine, là, et c'est dans ce cadre-là qu'on peut éventuellement diagnostiquer tous les problèmes qui ont miné la bonne marche du Soudan, tous les problèmes vitaux, sécuritaires, ainsi de suite, diplomatiques. Donc, mais pour à présent, je pense qu'il est très tôt de trop demander à la junte militaire et de leur demander de partir. Mais c'est bien eux qui ont déposé Oumar Hassan al-Béchir que je suis autant pour un gouvernement dirigé par un civil, mais pour des questions sécuritaires, il faut nécessairement associer les militaires à des postes comme ça a été prévu au départ, la défense ou la sécurité. Voilà.
Merci beaucoup Moussa d'avoir été en ligne avec nous. Bonne journée à N'Djamena. On part à présent pour Korogo. Denis, bonjour.
Bonjour Chantal.
Alors Denis, est-ce que la chute d'Omar al-Béchir est une victoire pour le peuple soudanais ou une demi-victoire d'après vous ?
Une demi-victoire. Madame, avant d'intervenir, je voulais répondre à l'intervention tout à l'heure de celui qui vient de passer.
De Moussa,
quand il dit que non, parce que la Libye est en guerre, il faut un militaire, il faut que les militaires restent un peu. Mais les États-Unis sont la première puissance militaire au monde. Est-ce un militaire qui est à la tête des États-Unis ? Est-ce qu'on a besoin d'un militaire forcément à la tête d'un pays pour qu'il soit fort militairement ? Non. Cette révolte-là est l'œuvre, le fruit de la contestation du peuple, de la révolte du peuple soudanais. Mais qu'on donne à César ce qui appartient à César. C'est le peuple soudanais qui s'est révolté, qui a vu qu'elle a été malmenée, elle a été marginalisée, elle a été frustrée pendant plus de 30 ans. Par un dirigeant, par un dictateur. Elle s'est révoltée, mais qu'on lui donne cette victoire-là, est-ce que ça, là, c'est compliqué ? C'est pas compliqué. Ce ne sont pas des militaires qui se sont révoltés dans un camp militaire au Soudan et qui ont fait un coup d'État. Non, c'est le peuple qui est descendu dans la rue depuis 4 mois en demandant le départ de al-Béchir. Il est parti. Et maintenant, il faut une transition civile.
Et est-ce que
organisé par des civils.
Et est-ce que les manifestants ont raison, selon vous, de demander la dissolution du NIS, le tout-puissant service de renseignement soudanais ?
Absolument. Tout ce qui reste comme vestige du pouvoir militaire doit disparaître. Ce pouvoir-là a fait trop de tort au peuple soudanais. Le peuple soudanais a pris conscience, elle s'est réveillée, elle s'est révoltée, mais que ces vestiges-là disparaissent et qu'un nouveau pouvoir démocratique avec des institutions fortes viennent au Soudan. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, pour ce qui est de l'Union africaine et autres, madame, ça c'est un syndicat de vieux présidents. Un président comme Paul Biya, un président comme le président tchadien, qu'est-ce que cela peuvent dire à quelqu'un qui a fait 30 ans au pouvoir? Qu'est-ce qu'ils peuvent apporter? C'est un syndicat de club de vieux présidents. Ils ne changeront rien au destin des Africains. Parce qu'eux-mêmes sont des dictateurs nés.
Alors Denis, est-ce que Omar El Béchir doit répondre de ses actes devant la CPI qui a lancé deux mandats d'arrêt contre lui pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et génocide au Darfour? Jusqu'à présent,
Absolument, mais quand vous avez commis des crimes, il est normal que vous répondiez devant les tribunaux de ces actes-là. Mais madame, moi je vais au-delà de ça. Moi je prends toujours, qui est un exemple aujourd'hui économique, moi je prends toujours le cas du Rwanda. Le Rwanda, le peuple rwandais a subi le génocide. Mais ils ont dépassé ce clivage de génocide-là, ils sont allés vers la réconciliation. Aujourd'hui, le Rwanda est montré comme exemple. C'est vrai qu'il peut avoir eu des crimes et autres, mais si on dépasse tout ça, c'est l'avenir qui est important. C'est le développement du Soudan qui est important.
Merci beaucoup, Denis, de nous avoir appelé de Korogo. Bonne journée à vous. Cyril, bonjour.
Bonjour, Erol. Bonjour.
Vous êtes en ligne de Bangui. Alors, que vous inspire la chute d'Omar El Béchir? Est-ce que c'est la chute d'un président, est-ce que le régime reste encore noyauté pour longtemps par les militaires, d'après vous?
Ben, finalement, on se rend compte que on a déshabillé Jean pour habiller Paul, parce que la révolte a été menée par la population civile. Et ces derniers temps, on a vu en première ligne les hommes, les jeunes et les femmes qui ont mené les manifestations, et cela apporte ses fruits. Finalement, on se rend compte que le pouvoir est confisqué entre les mains des militaires, et donc ça nous laisse un peu perplexe. Mais moi, je voulais quand même intervenir sur un point important, parce que le Soudan avait accueilli donc les pourparlers entre le gouvernement centrafricain et le groupe rebelle, et ceci a conduit à la signature d'un accord de paix et de réconciliation à Khartoum. Mais aujourd'hui, que Béchir n'est plus là, on se pose des questions. Est-ce que la nouvelle équipe qui est en place va contribuer efficacement à la mise en œuvre de cet accord de paix en créant des conditions au niveau des frontières? Parce qu'il n'est pas évident que le régime actuel puisse coopérer dans un sens négatif avec les groupes rebelles qui contrôlent une grande partie du territoire centrafricain et torpiller donc la mise en œuvre de l'accord de paix qui a été signé. Donc en ce niveau, je pense que l'inquiétude est un peu grande en RCA. Et il est important que la communauté internationale ouvre les yeux également, que la sous-région également ouvre les yeux pour que, au Soudan, qu'on ait un gouvernement civil qui travaille vraiment pour la paix et la réconciliation dans la sous-région. Parce que vous savez que le Soudan a été impliqué, est au centre et est impliqué dans beaucoup de conflits au niveau sous-régional, en Centrafrique, au Tchad et un peu ailleurs. Donc vraiment, nous sommes un peu inquiets en Centrafrique et nous souhaitons vraiment qu'une nouvelle équipe soit en place, une équipe civile, et qui puisse travailler main dans la main pour que les accords signés entre la RCA et les groupes armés puissent être mis en œuvre. Et que le Soudan ne devienne pas une base arrière de groupes armés en termes de ravitaillement en hommes et en armement. Voilà ma préoccupation.
Bien, merci beaucoup Cyril d'avoir exprimé votre préoccupation au micro de RFI. Merci de nous avoir appelé et bonne journée à Bangui. Appel sur l'actualité, c'est presque fini pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir participé à cette émission préparée par toute l'équipe. Quentin Ferral, Jessica Taïeb, Léa Deschâteaux, Lou Roméo et Marie Lemaître. Une émission réalisée par Michael Verne avec aux appels Alexis Levavasseur. Demain, Juan Gomez sera là. Il vous propose de débattre de l'avenir judiciaire d'Omar El Béchir, accusé par la CPI de génocide, notamment au Darfour. Le président destitué doit-il répondre de ses actes devant la justice internationale? Appelez-nous au 339 693 693 70 ou sur notre numéro WhatsApp 33 6 89 28 53 64. Caroline Paré, bonjour.